Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bonne fête. J'espère que le Père Noël vous a gâté et vous a amené de plein de bonnes choses. Alors, nous sommes encore en période de fête, et j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule « Noël en Périgord, 12 contes » par Jean-Louis Gallet, et c'est édité par les éditions Libre, et je crois en 1993. Pas tout récent, mais enfin c'est toujours d'actualité, Noël, mais ma foi, c'est la fête. Alors, il y a un quatrième de couverture, ce serait intéressant, il y a une très belle vue du château de Biron et la campagne environnante. Alors, voilà ce qu'on nous dit sur ce fameux château, ce pays, il suffit d'aller de pierre en pierre pour que s'éveillent les légendes endormies. En voulez-vous la preuve? Rendez-vous près de cette forteresse, jadis puissante baronnie du Périgord. Dans la nuit du 31 juillet, et à mesure que s'égrèneront à la cloche grêle de la chapelle les 12 coups de minuit, vous verrez peu à peu apparaître sur les murailles du chemin de ronde une forme humaine en chemise blanche. Chose curieuse, elle porte sa tête sous son bras. Ayant accompli le tour des courtines, elle revient vers le tombeau des ancêtres sur lequel elle lave l'écu de la famille, comme si elle voulait faire disparaître la tâche indélébile d'une trahison. Puis elle rentre dans son sépulcre, c'est le fantôme du maréchal duc de Biron qui trahit son compagnon de bataille, le roi Henri IV, et qui pour cela fait condamner à mort, puis décapité le lendemain dans la cour de la Bastille à Paris. Voilà, bon, c'est pas très gai. Alors, il y a quand même un petit appendice, un conseil pour vous réchauffer pendant votre longue attente, emportez une petite bonbonne d'eau de vie de prune du pays, elle est excellente, et paraît-il, sa dégustation aide à la venue de l'extraordinaire apparition. Voilà, alors, bon, sur la bouteille, sur la bonbonne, ça fait quand même beaucoup. Une bonbonne fait, je crois, à peu près 3 litres ou 5 litres au minimum. Voilà, alors, les contes de ces fameux contes de Noël, ben, je dois dire que Jean-Louis Gallet, en son temps, bon, je l'ai bien connu, on a fait pas mal de choses ensemble, je crois qu'on a même fait un concours d'affiches dans une banlieue parisienne. Voilà. Et puis, je me souviens, j'allais le voir à Périgueux, près de la tour Mataguère, où il était au syndicat d'initiative, et bien sûr, on allait dîner dans un restaurant, jamais le même, et en disant, voilà, c'est l'office de tourisme qui arrive et qui vous salue bien. Voilà. Alors, donc, bon, j'ai de très bons souvenirs, et puis je dirais quand même que servi par la richesse pittoresque du Périgord, une province dotée d'un patrimoine, de châteaux, aussi bien que d'humbles demeures, paysannes, Jean-Louis Gallet a su, l'imagination aidant, l'histoire ou l'anecdote, en faire une sorte de jardin des lettres où chacun peut trouver son butin. Il a écrit des centaines de contes, des nouvelles, où le fantastique le dispute à la poésie et à la malice. On se retrouve donc avec ses écrits en amicale compagnie au cœur d'un terroir haut en couleur qui emprunte son charme à nostalgie d'autrefois en s'accommodant des conditions cursives qu'impose trop souvent la lecture, le rythme heurté du présent. Voilà, et puis il y a une très belle photo de Jean-Louis Gallet. Alors, avant de commencer la lecture par elle-même, il y a une petite comptine avec, comment je pourrais dire, là, avec une vielle. Voilà, alors un jeune peintre somnolait tout seul dans sa cabane. Pendant qu'il sommeillait, il entendit un oiselet qui clamait « Pâtre, réveille-toi ! Je viens t'annoncer la nouvelle de la naissance du Messie. Jamais plus belle fête n'est célébrée ici. Et c'est pour cela que j'appelle, enfin que tu sois béni. Ah, c'est pour cela que j'entends dans les airs le ciel tout illuminé. Oh, le beau chanteur ou la belle clarté, je n'ai jamais, pauvre de moi, si bien entendu chanter. » Voilà, alors ça c'était une petite comptine qui se trouvait sur la page gauche de ce livre. Et il y a quand même un petit texte avec, à la fin, mascarille, qu'on va retrouver, petit bois, un hôtelier évidemment, avec... Ouais, qui se porte bien avec un grand chapeau et Arnolphe, bon, le médecin de service de l'époque. Alors, il y a, voilà donc magie de Noël. Depuis l'aube des temps, dans nos contrées, l'homme a haï l'hiver. C'est l'époque du noir, du froid, de la pluie Il a cherché à lui rogner les crocs. Il a inventé l'abri sous roche, obstrué par des peaux de bête, la lampe à graisse qui éclaire et le brasier qui réchauffe et cuit les viandes. Il a aussi imaginé de le vaincre par la fête d'abord. Il y a eu le verbe, l'histoire, les conteurs sorciers qui émerveillaient les chasseurs de rennes, n'en doutons pas, accroupis autour du foyer sous les images peintes de Lascaux. La célébration de la nuit la plus longue du solstice d'hiver, c'était chez nos ancêtres les Gaulois, la cérémonie du Guilan Neuf, où l'on se représente les druides en robe blanche, montant dans les chênes vénérables pour y couper la plante sacrée de leur faucille d'or. Aussi lointain que ce soit, il en reste dans nos campagnes le Guyanais, ces groupes burlesques d'enfants masqués en l'emportant, lanternes au soir tombées de ferme en ferme, mendier les traînes et copains. Et copains, ici une douzaine d'eux, pour faire le masse-pain ou d'un poutou de la plus jolie fille de la maison, quémandant en Languedoc et tendant la main. Alors, il y a une petite comptine à Paris sur le pont Neuf, au Guilan Neuf nous demandons, à Paris sur le petit pont, mon capitaine, au Guilan Neuf nous demandons, et puis les traînes. À moins que, il y ait une autre version, à Paris il y a une dame mariée richement, au Guilan Neuf on vous demande, pour le dernier jour de l'an, bien sûr, une petite étrenne. Alors, bon, nous, je me rappelle avoir participé à des choses comme ça, mais c'était pas la nuit de Noël, parce que c'est quand même pas très chaud. Mais c'était pour le 1er mai, où l'on allait de maison en maison réclamer quelques œufs pour faire une omelette que la maman d'un de nos compagnons faisait avec plaisir. Je sais pas si c'était vraiment avec plaisir, mais enfin, elle faisait quand même une belle omelette, et puis on se partageait quelques sous que nous avait donné. Voilà, alors après je vais revenir quand même aux fêtes de Noël, avec l'avènement du christianisme, c'est la joie de la naissance de l'enfant Dieu qui porte tous les espoirs dans les églises, les palais, dans les humbles chaumines, avec une profusion de cierges et aujourd'hui des ruisseaux de lumière autour des monceaux de bituailles. Par là s'annonce la croissance des jours, qui exaltera à partir de juin, après le réveil de la nature et de la résurrection du soleil. Les rois de l'Épiphanie seront entre-temps venus nous inciter à la patience et leur cortège biblique auquel s'ajoindra l'humble berger de village portant l'agneau votif sur ses épaules. On chantait l'allégresse et la nativité grâce à des cantiques d'origine populaire en langue du pays. Parfois naïf, toujours charmant, repris à l'église sous les voûtes romanes et par le chœur des voix graves des anciens avec l'accent juvénile en contrepoint des drôles et des drôlettes. Noël occitan où les anges mènent grand train dans le ciel pour tirer les chrétiens endormis de leur torpeur et les amener à la fête à Bethléem. Outre les chanteurs, les conteurs de la veillée demeuraient inséparables de la fête. Leur période de triomphe durait assez longtemps, le temps où tout le hameau s'assemblait à tour de rôle chez l'un, chez l'autre, pour les témoignages, combien de contes d'histoires de légendes ont été inventés, enjolivés au fil des générations à cette occasion, selon le talent ou la malice des diseurs. Certains récits remontent aux fabliaux du Moyen-Âge, mais chaque époque a apporté sa pierre au rythme allègre, démaillé, de bois faisant éclater des coquilles blondes. Et évidemment, il y a cache au cocal. La faculté des temps modernes nous apporte désormais immédiatement l'image, la couleur et le son. Elle rend utile la description des personnages en progression savante du récit, ses répétitions voulues, astuces qui relançaient l'attention loin du genre, qu'un œil complice du conteuil, ses mimiques, ses silences, qui remontaient sûrement aux Aèdes, narrant l'Iliade aux anciens Grecs. Alors, ça fait quand même un petit peu loin. Bien, alors il y a un petit chapitre pour terminer, mais pourquoi renoncer à la magie du verbe? Pourquoi pas au moins une fois dans l'année essayer de lire ou d'écouter, renouer avec le rite du conte de Noël? Le terroir est là, toujours le même, autour de nous, et les gens que nous sommes ont-ils tellement changé? Anachronique, les contes de Noël, peut-être, mais ne sont-ils pas devenus plus curieux parce que plus rares? C'est pourquoi j'ai réuni 12 d'entre eux, inédits, et qui ont, en des publications diverses, été consacrés par l'épreuve d'un tour de la France profonde, mais en des pages éphémères. Ils sont là, entre vos mains, un bouquet de Noël, et c'est signé, bien entendu, Jean-Louis Regardez, alors, on parlait bien sûr du maréchal de Miron, et il y a là une complainte qui a été écrite en occitan, si je me trompe, et qui dit à peu près ceci. Alors, je vais vous la donner en français, parce que je l'ai sous les yeux avec une traduction. Alors, le marquis de Biron, pair de France, amiral et commandant en chef de l'armée française, qui fut décapité à la Bastille le 31 juillet 1602 pour avoir comploté avec la Savoie et l'Espagne contre le roi de France, Henri IV. Eh oui, c'est une chose qu'il ne fallait pas faire à l'époque. Alors, voici donc cette traduction en français de la chanson de Biron. Il y en a, ou la complainte de Biron, comme vous voudrez. Alors voilà, le maréchal à la Bastille s'était endormi pendant la nuit, mais on fit du bruit à la grille. D'un bond, il s'éveille et s'écrie qu'il vient là à 7 heures. Courroucé, le grand guerrier, ajouta pour troubler la triste demeure et le sommeil du prisonnier. Je suis ton seigneur, le roi de France, lui répondit le grand Henri. Toi, tu as bien défendu ma lance. Toi, roi, pour qui je voulais mourir, tu viens insulter ma misère, rire d'un pauvre condamné, à quand nous allions à la guerre, tu me promettais 1000 bienfaits. J'ai commandé sur mer, sur terre, et tes cavaliers en Piémont disaient qu'il n'y avait pas à la guerre un commandant comme Biron. Tu as oublié toute la peine, et que pour toi je me suis donné, car dans mon corps il n'y a pas une veine qui pour mon roi n'ait saigné. Je me souviens de tes campagnes, Biron, non, je n'oublie pas, mais tu voulais me vendre à l'Espagne et me trahir comme Judas. Non, tu as écouté la médisance, Biron n'a pas trahi son roi. Soit qu'on me coupera la tête, mais toi, tu seras mari de ta vengeance. À que dirait mon pauvre père si voyez son fils prisonnier, vous autres rois, vous souciez guère des services d'un grand guerrier, tu as oublié toute la peine que pour toi je me suis donnée, car dans mon corps il n'y a pas une veine qui pour mon roi n'ait saigné. Et l'on dit qu'en fermant la porte, Biron s'aperçut que le grand Henri pleurait devant son escorte. Peut-être que son cœur était meurtri. À présent, levons-nous, mes frères, dans la chapelle de Biron, nous prierons pour le fils, pour le père, pour leur gloire et leur renom. Voilà, ça c'était la chanson ou la complainte de Biron, comme l'on voudra. Alors, on va revenir un petit peu à Jean-Louis Gallet. Je veux dire que ce livre, et c'est une édition préparée par Alain Lamongi, été achevé d'imprimer le 26 novembre 1993. Et la composition a été réalisée par Nelly Thoron, le tirage des textes et des illustrations par Pierre Garcia, imprimeur anglais près de la mer. Alors voilà une bonne précision. Alors bien sûr, l'exemplaire que j'ai est un exemplaire hors commerce. Alors, bien sûr, Jean-Louis Gallet n'a pas écrit que Noël en Périgord. Il a écrit bien d'autres livres que l'on va peut-être éplucher un tout petit peu. Alors, il y a Pénombre, sont des nouvelles, Contes et légendes de la forêt d'Oc, Le Périgord du bon vieux temps, Images fantastiques du folklore périgourdin, Si devant la rocale, Page choisie de Jeanne Leroy, Les paladins d'Oberoche, Contes et images du Périgord, Neuvic et ses châteaux, Lauvezère, et ce château, évidemment, Goletti, le dernier croquant. Et puis, il y a aussi 100 ans de préhistoire à Périgord. Alors, ce livre, 100 ans de préhistoire à Périgord, a obtenu le prix de l'Académie française. Alors, il y a Meurtre à haute fée, prix de la... ou haute faille, comme vous voudrez, si vous prononcez le Y, prix de la Société des gens de lettres. Et puis, il y a l'almanach révolutionnaire du Périgord, et le Tour du Périgord en 1900 avec Eugène Leroy, et illustré et commenté. Alors voilà donc quelques livres, quelques ouvrages qu'il a écrits, et puis comme je disais au début, il a écrit évidemment beaucoup de textes pour des journaux, et je pense qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine. En attendant, ben, je vous souhaite quand même une bonne fin d'année, un bon début de 2025, un bon réveillon, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.